Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 22 mars, il est exactement midi dans vos oreilles.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles avec aujourd'hui pour commencer, maintenant, le supplément week-end avec l'actu BD, manga, pas de ciné, pas de DVD, TV. Suivi de ça, c'est du sport et résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie à 15h, Zama Farai, c'est du reggae avec Poupa Christopher. 17h, de la bonne musique avec ça, c'est de la bonne viande, une bonne découverte musicale, vous prendrez bien ça avant Big Bang à 18h. Et à 19h, on commence le mix avec Happy Hero. 20h, DJ Pedro avec la CTO Experience. 21h30, 9 Love, c'est U2 Step. Et à 23h, du live avec le potager. Bonjour et bienvenue, j'espère que vous êtes bien accrochés, c'est le supplément week-end de Pâques, il n'y a pas grand monde qui nous écoute, il pleut, c'est une catastrophe. Heureusement, les chocolats de Pâques vont tenir peut-être un petit peu plus longtemps que s'ils étaient au soleil. Nathan Ikabangaroma, bonjour.
Bonjour.
J'espère que je n'ai pas écorché ton nom.
Non, c'est bon.
C'est notre invité aujourd'hui dans le supplément week-end, il est là pour parler donc de l'association, d'une association, l'école supérieure de commerce pour la promotion du manga et de la fantasy. Il y a aussi une autre interview qui est prévue, CDP. C'est des nombrils et ça, ce sera après. Oh, allez, une petite peu de musique qui secoue. On en voit plein la gueule à la religion. Front 242, les Belges. Sur l'album 06-21-03-11 Up Evil, qu'on peut traduire par Fuck Up Evil. Ça tombe bien, le morceau s'appelle Religion. C'est quoi? C'est du foutage de gueule? Non.
Thank you.
officiellement, c'est le printemps. Ouais, je sais, ça fait un peu bizarre, il faisait meilleur en hiver qu'au printemps, ça fait étrange. À côté de cela, ben, que dire? Oh, la mairie a basculé et heureusement, grâce à mon émission, cette radio reste encore une radio d'opposition municipale. Bref, c'est un petit peu le bordel. Mais c'est pas ça le plus important. C'est qu'on est l'émission, on fête la 150e et je suis un petit peu tout seul. Enfin non, j'exagère, il y a mon invité, Nathan Nicabanga Romain, qui est là, heureusement, pour accompagner. Il y a du sport, je l'ai entendu là-haut, là, à mon avis, il est en train de faire du café. Et Thomas, je sais pas où il est.
Oui, allô ?
Non, t'es là ?
Oui, si, je suis là. Je suis avec vous pour cette 150e.
Eh, mais, qu'est-ce que... Tu es parti en reportage chez les ch'tis, comprends pourquoi ça marche mieux qu'Astérix ou quoi ?
Non, pas chez les ch'tis, chez les... comment on pourrait... Les landos... Les landais, voilà.
Les landais, d'accord. Tu vas chercher les œufs dans la forêt de sapins. Bah, ça va être bien, ça. Ça va pas être trop difficile pour les planquer, je suppose.
Voilà, les œufs au maïs. Et là, on est en train de se battre sur la route avec les connards qui te foncent dessus avant de déboîter au dernier moment.
Bah, ah,
c'est la bonne vieille technique qu'on avait utilisée pour le voyage à Angoulême.
Voilà, ce qu'on vous explique...
De les flasher.
Voilà ce que vous explique au festival d'Angoulême. Quand on y va, d'habitude, je suis un petit peu énervé. Déjà que je conduis pas, je vais dire d'une manière très soft. Mais en plus, c'est très agaçant d'avoir des camions espagnols qui vous foncent par derrière à 140 à l'heure et qui vous font des coups de flash. Donc, des appels de phare. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les radars. On prend en photo les plaques d'immatriculation et là, de suite, il y a un grand espace qui se fait. Là, il respecte les distances sécurité. C'est quand même agréable quand on roule dans une petite voiture. Ça va bien avec Sabrina ?
Eh bien, ça va bien. Sinon, toi, qu'est-ce que t'as prévu pour ce numéro 150 ?
Eh ben, on va parler d'une association pour la promotion de fantasy et de la manga. On va parler, on va passer l'interview de Mac Delaf et Maryse Dubuc.
Ah oui, très bien.
Je me souviens pour les nombrils. Ah, un accent québécois absolument fabuleux. On va parler aussi Global Frequency et du sport viennent de me sortir les Fatal Picard. Ah non, pire que ça, il a le double Steven Seagal. Oui, ami auditeur, toi qui nous écouteras pendant l'heure musicale de Du Sport à partir de 14h, vous aurez une intégrale de Steven Seagal.
Oh non.
Où il ne joue pas avec les pieds mais avec les mains. Et il n'est pas mauvais ce con. Enfin bon, bref, on te retrouve la semaine prochaine. Je crois que tu as de la chronique de qualité.
Oui, j'ai de la daube avec des mammouths. Donc c'est 10 000 dont la qualité est inversement proportionnelle au numéro de qui fait le titre du film. On fera un top 5 sur les titres de films avec des numéros d'ailleurs.
Ah, pas mal. On aura aussi en invité Sébastien Langevin qui vient à Toulouse justement pour donc une conférence de presse dont pour une conférence. Pour une conférence dont on parlera tout à l'heure. J'en fais tomber
pas
ma main.
La conférence de presse, non pas encore.
Pas encore. Et promis juré. C'est une émission numéro 150 sans part ni Fayette ni Thomas, donc je te souhaite un très bon week-end.
Merci beaucoup, bon week-end de Pâques et puis bonne émission alors.
Ouais, amuse-toi bien, ciao bye.
Ciao.
Voilà, donc pas de soucis, on a prévu absolument quelque chose de à peu près complètement au hasard. Du sport est en train de s'installer et donc moi je me tourne vers mon invité. J'espère que t'es pas trop dépaysé par cette radio de branque.
Non, ça va.
Dans le micro peut-être ça marchera mieux.
C'est super sympa, c'est super cool.
D'accord, ben tant mieux. On va parler un petit peu ton école, mais on va pas parler en fait de ce que l'on enseigne dans ton école, parce que après tout ça ne regarde que tes chères études, mais on va plutôt parler en fait d'une association dont tu t'occupes pour la promotion de la fantasy et du manga.
Voilà, donc son nom c'est Toulouse Fantasy Show. Mmh. C'est une association qui a été créée par 5 élèves de l'école de commerce, Amael Dia, Thomas Porel, David Font, Clarisse Blanchet et moi-même.
D'accord.
Et en fait, on essaye de promouvoir par le biais de cette association le manga et la fantasy. Donc pour ce faire, on va donc faire deux conférences, une conférence pour le manga et une conférence pour la fantasy. Et on aura comme invité Sébastien Langevin, Julien Hamzalag, qui travaille dans le manga depuis 12 ans et vous-même.
Et qui est donc vendeur à Librairie Album BD Ciné.
Oui.
Donc voilà, donc vendeur spécialisé. Et donc moi-même, mais bon, ça, on va me dire, ah, mais il est gonflé, il se fait faire son autopromotion par quelqu'un d'autre dans son émission. Non, quand même. Sébastien Langevin, on l'avait déjà eu en conférence, il était déjà venu l'an dernier, il y a pratiquement un an, puisque c'est une tradition dans cette émission, même depuis un sacré bail, c'est que la première émission qui a lieu en avril, sauf que là ce sera la dernière émission du mois de mars, est consacrée à la manga. On a eu Frédéric Boilet, Aurélia Orita qui sont venus en direct, on a eu Sébastien Langevin qui était venu avec Patrick Abri des éditions Tiopan. Donc là Sébastien Langevin revient, c'est un ancien rédacteur de la revue Animeland, il a été aussi rédacteur en chef du spin-off d'Animeland qui s'appelait Virus Manga, parler de manga je veux dire, mais pas uniquement le manga mainstream, c'était beaucoup plus ouvert que ça, et d'un certain niveau. Il a coécrit le manga, un essentiel à Milan, avec Stéphane Ferrand, et il est actuellement rédacteur en chef de Canal BD Manga, qui est une revue gratuitement distribuée chez les libraires spécialisés en bande dessinée, donc autour des mangas. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est très exactement le lien entre la fantasy et le manga. Le manga est un média. Le ou la manga, hein. Vous savez pas comment on la traite. Moi je dis plutôt là. Et la fantasy est un univers. Comment c'est l'intersection de l'un et de l'autre ou c'est l'union des deux?
C'est je dirais un peu des deux en fait. Si on a choisi ces deux genres littéraires, c'est avant tout parce qu'on était tous intéressés par ces deux genres littéraires, et aussi parce que on avait remarqué que c'était deux genres littéraires qui étaient en pleine explosion aujourd'hui en France, le manga et la fantasy. Et qui était toujours entouré d'une aura de mystère. Il y avait plein de gens qui voulaient découvrir ce genre, et c'est pour ça que ça nous est venu l'idée d'essayer de combiner un peu les deux genres pour en faire des sujets de réflexion, de conférences, etc.
C'est un petit peu restrictif parce que manga, fantasy, il y a Hunter x Hunter, oui. Non, il n'y a même pas Dragon Ball Z, hein. On peut le classer ailleurs, il n'y a pas grand chose finalement.
Dans le manga et la fantasy
Le manga, fantasy.
Ah, le manga, fantasy. C'est...
traduit en français.
Bah, je ne sais pas si ça existe un manga fantasy, mais... Ça, oui.
Oui, oui. C'est un petit peu inquiétant. Et je crois qu'en dehors de ces conférences, il y a autre chose qui est prévu.
Oui, on fera un jeu de piste qui aura lieu le 3 mai au Centre Bellegarde. Et en fait, on a prévu de mettre des énigmes un peu partout dans nos librairies partenaires, librairies manga et fantasy au centre-ville de Toulouse, pour essayer de faire un peu circuler les gens dans ces librairies et découvrir un peu la littérature fantasy et manga en même temps.
D'accord. Parmi ces librairies, il y a qui? Je suppose qu'il y a Album, il y a Imaginaire,
il y a Mon Garage, il y a Asience, il y a toutes les fantaisies, toutes les librairies fantasy manga du centre-ville de Toulouse à peu près.
Pour en revenir, outre l'union de ces 5 étudiants qu'est-ce qui toi t'a fait amener à la fantasy en elle-même? C'est quoi? Ça a été les films, les romans
Ben oui, un peu des films, mais moi je suis plus porté manga. C'est plus un élève qui s'appelle Thomas Porel qui est à fond dans la littérature fantasy. Et c'est lui qui a un peu amené notre association aussi à se porter sur la fantasy.
D'accord. Donc c'est comme ça que ça s'est un peu mené. Toi, c'est quoi la manga que tu... C'est manga télévisuel, manga papier
Un peu des deux. C'est surtout, enfin, tout ce qui est un peu psychologique. Bon, il y a bien sûr tous les mangas actuels comme Death Note, Naruto, enfin les télévisuels comme vous dites.
Oui. Non, en animation, mais Naruto et Death Note ont d'abord été des livres papier avant d'être de l'animation.
Voilà, mais je les ai lus d'abord en papier, mais aussi il y a plein de mangas peu connus encore en France comme Bokurano que j'ai beaucoup aimé, ou sinon des mangas qui comme Lain sont super psychologiques et sont ce genre
là,
de
là c'est l'animation pure et dure, hein. Voilà, c'est la Japanime, oui. Lain un peu strange. VF ouais. Ou VO?
En VF.
En VF. Ah, la voix de Sailor Moon, franchement c'est un petit peu dommage. Moi, ce qui m'intéresse à savoir, c'est en tant qu'étudiant de commerce, est-ce que tu t'es intéressé de savoir comment on fait pour négocier les droits et tout le reste, justement? Est-ce que toi, tu aimerais faire carrière là-dedans?
Ben pourquoi pas, ce n'est pas un milieu, enfin ce n'est pas une ouverture qui me déplairait. Et pour avoir les droits un peu, c'est on travaille en collaboration avec une marraine qui elle est membre du Festival de Toulouse et qui peut accéder à un certain nombre de droits d'auteur, droits de diffusion de ce genre. Quoi.
D'accord. Accessoirement, donc cette conférence, elle aura lieu quand et où ?
Donc ta conférence, elle aura lieu le 28 mars.
C'est pas la peine de me dire ta conférence. C'est d'abord la vôtre, puisque c'est vous qui l'organisez.
Oui, oui. Mais la conférence, elle aura lieu le 28 mars prochain. Et elle aura lieu donc à l'amphithéâtre de l'ESC Toulouse, de l'école de commerce de Toulouse, et elle commencera à 18h.
D'accord. À partir donc de 18h, il y a de la place, l'entrée est payante.
L'entrée est gratuite, tout est gratuit. Il y a beaucoup de places. L'amphi fait 400 places, donc tout le monde est assuré d'avoir une place assise. Voilà.
D'accord. C'est le meilleur moyen pour y accéder. Je crois qu'il y a le métro Compense Caffarelli à côté.
Il y a le métro Compense Caffarelli. Il y a aussi ceux qui sont adeptes du vélo Toulouse. Il y a une station de vélo Toulouse.
Ouais, les Moudinquettes, ouais, comment ils appellent. Il faut bien qu'il y ait laissé une trace quand même sommaire.
Voilà.
D'accord. Après la conférence Fantasy, elle est prévue à quelle date ?
La conférence Fantasy, elle est prévue donc dans la première quinzaine du mois d'avril. On ne l'a pas encore fixé, mais on communiquera bientôt la date.
Bien, Nathan, de toute façon, tu es invité, tu peux rester, il n'y a pas de problème. Si tu as quelque chose dont tu veux parler, n'hésite pas. Aujourd'hui, il y a peu de manga. Je sais pas, on t'a laissé le conducteur sous les yeux, truc qu'on ne fait jamais avec les invités. Mais il y en a relativement peu, puisqu'on va plutôt parler de comics et de bande dessinée européenne. Après, je sais pas, bande dessinée européenne, ils sont québécois, les auteurs. Après, je sais pas ce que du sport a prévu, là. Il est en train de faire autre chose. Est en train de boire un truc suspect là. On verra ça tout à l'heure. Ce qu'il y a d'autre à noter dans notre agenda, aujourd'hui à partir de 15h à la librairie Album Romiguer, le dessinateur Morgan et le coloriste Marf seront en dédicace pour le deuxième tome de la série Livres et Fantômes qui s'appelle L'éminent professeur Pelias. Il vient de sortir la collection Conquistador chez Delcourt. Vendredi prochain, en même temps que la conférence, c'est un petit peu dommage, Paul Coé et Guillaume Clavery dédicaceront Aster, toujours dans la collection Terre de Légende chez Delcourt. Et le lendemain, samedi 29, à Librairie Album, encore une fois, mais là, c'est de la littérature, sauf que c'est pas de la fantasy, c'est de la science-fiction. Jean-Marc L'Officier pour Crépuscule Vaudou, qui vient de sortir dans la collection Club Van Helsing chez La Baleine. Ah non, je suis désolé, c'est de la fantasy. Et il est éditeur SF dans Rivière Blanche, en référence à Rivage Noir, bien évidemment. Il est aussi scénariste de Robur chez Albin Michel, Doctor Strange, Hellraiser, Superman, il a bossé pour DC, pour Marvel. Il a accompagné de Randy L'Officier, qui est sa compagne et sa co-auteuse, et Guillaume Lebeau, directeur de collection, et Philippe Varn, auteur et directeur de collection. Ça sera samedi prochain à Album. l'information principale de cette semaine. On l'a appris tardivement hier, c'est le décès de Raymond Leblanc, qui a été le créateur du journal de Tintin et des éditions du Lombard. Raymond Leblanc est donc décédé jeudi dernier, à l'âge de 92 ans, et il était encore vert. Sauf que je l'ai vu quand même je l'ai vu se ramasser une belle cabriole quand même quand il a eu son Alfa en 2003.
Oui, c'était le premier. C'était Alfa le premier éditeur à être décerné à un éditeur.
Voilà, et pour son œuvre rendue. Et chaque fois qu'il allait à toutes les fêtes du Lombard où il y allait, on lui posait la question, vous êtes encore vivant et tout, vous conduisez encore votre Ferrari dans les rues de Bruxelles et tout. À l'année prochaine. Et là, il dit, oh, on ne sait jamais, un mari jaloux. Donc c'est vous dire l'individu que c'était. Jusqu'à récemment, ce grand entrepreneur qui a été un très 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 grand acteur de la bande dessinée belge et de l'animation franco-belge, se rendait au Lombard en tant que président d'honneur. Il a été douanier, il est devenu résistant, il a été une personne très importante du maquis catholique en Belgique, et il a sauvé Hergé de l'incivisme. Il faut savoir que Hergé avait publié un ou deux Tintins, je crois que c'était l'Étoile Mystérieuse, entre autres, dans le quotidien Le Soir, qui avait été volé par les Allemands, et ça avait fait un immense scandale, surtout qu'Hergé était proche quand même à l'époque des milieux chrétiens d'extrême droite, et donc on a dit non, il faut le clouer au lit, abat Tintin, etc. Et Raymond Leblanc a sauvé Hergé en disant, c'est grâce à lui que j'ai tenu le coup quand j'étais dans les géoles de la Gestapo. Donc on rend ça. Ce qui fait que, donc le 26 septembre 1946, il fait sortir le premier numéro du journal de Tintin, puisque c'est lui qui a relancé la carrière d'Hergé après la Libération, avec la complicité de Edgar Pierre Jacobs, créateur de Black et Mortimer. Mais avant de créer Black et Mortimer, il a fait Le Rayon U, une histoire qu'il avait commencé à écrire justement pendant l'occupation, et que là il a pu publier. Il y a eu aussi Lodi, Paul Cuvelier, un dessinateur très très peu connu, qui avait fait entre autres Epoxy avec Jean Vanham, mais ça remonte, hein, ça, c'était dans les années 70, et avec l'aide quasi clandestine, bon c'est vrai que lui aussi il a été condamné pour incivisme, le peintre et journaliste Van Melkebeck, qui était un peu l'éminence grise de Hergé, il a écrit pas mal de scénarios, et c'est vrai qu'on lui a assez peu pardonné les papiers qu'il a fait pro-nazi quand même, enfin réxiste plus exactement, qui était l'équivalent du maréchalisme en France pour la Belgique. Rapidement, les auteurs du journal de Tintin ont pour ambition de faire mieux que leur principal concurrent, bien évidemment le journal de Spirou, qui a été créé en 1938. Des générations d'auteurs qui marquent encore aujourd'hui le monde de la bande dessinée ont fait leurs armes dans ces journaux, notamment par exemple Vink, dont les aventures d'Epao vient de sortir chez Dargo. Il y a eu trois éditeurs qui ont vraiment compté en Belgique. Casterman, qui existe depuis 1850. Dupuis, fondé en 1920 et qui s'est mis vraiment dans la bande dessinée avec le journal de Spirou. Et Le Lombard, créé en 1946. Tous les trois ont vraiment été le creuset de la création belge. Le Lombard, en plus, distribuait le journal de Tintin en Belgique, et la distribution française s'est faite par un certain Georges Dargaud en 1946. Dans les années 50, en 52 si je ne me trompe, Leblanc décide de se lancer dans la production d'albums. Ça existait déjà, puisqu'il y a eu des Tintins qui ont été édités en album dès 1930, mais lui il a vraiment imposé le format 48 planches couleur cartonné. C'est lui vraiment qui l'a lancé avant Spirou, et c'est là où vraiment ça a cartonné et tout le reste a marché. Après il y a eu la disparition des grands hebdomadaires de bande dessinée, puisque le journal Tintin a plus ou moins subsisté dans différents formats comme Tintin Reporter jusqu'en 1992, ça a été plus ou moins la fin. Raymond Leblanc, lui, s'était désengagé en tant qu'actionnaire en 1985, puisqu'il a revendu au groupe Média Participation, donc les éditions du Lombard, mais il était resté président d'honneur. C'est donc un grand maître de la bande dessinée, mais maître de l'ombre. C'est été un financier avant tout, mais quelqu'un qui a aidé énormément d'auteurs à se lancer, que cela soit Tibet, que cela soit Turquet de Grotte. La liste serait immensément longue. On n'aurait pas le temps de tous ces citer, mais donc il est parti. En tout cas, il aura vécu une très belle vie, assez chaotique et assez bordée d'aventures. C'est quelque chose de plutôt palpitant. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait une des biographies qui ressortent sur ce personnage, parce que outre son passé de résistant, outre son passé d'éditeur, il a eu une vie, je vais dire, assez rythmée et remplie. Donc Armand Leblanc, qui a disparu à l'âge de 92 ans jeudi dernier. On va entamer sortie bande dessinée avec une interview, celle de Marc Delaf et Maryse Dubuc, que l'on a rencontré lors du festival d'Angoulême en janvier dernier. Ce sont les auteurs des Nombrils. Le troisième tome est sorti cette semaine chez Dupuis et s'appelle Les liens de l'amitié. Oh, c'est beau, avec un nom pareil, je peux vous dire. Ces petits oiseaux et tout ça, c'est beau. Karine a 16 ans, elle est grande, pas très en forme. Oh, je veux dire plutôt, c'est le format planche à repasser molle. Et souvent trop gentille. Elle a surtout le tort de croire qu'elle est la copine de Jenny et Vicky, deux autres lycéennes comme elle, qui n'ont de que faire après tout qu'elle est en cours, sinon uniquement pour montrer leur dernier fringue à la mode. Ah oui, aussi de courir après John, le seul garçon avec sur lequel elles osent porter leurs yeux, parce que tout simplement, c'est le plus beau du lycée, voilà. Enfin, on veut bien croire que c'est le plus beau du lycée. Enfin, on veut bien les croire que c'est le plus beau du lycée. Parce que John, il a jamais enlevé son casque. C'est se demander si c'est pas la moto qui est la plus belle pour aller danser ce soir. Tout n'est affaire que de réputation et Karine sert de souffre-douleur à ces deux pestes. Heureusement, la morale est sauf. Jenny et Vicky sont particulièrement connes, comme deux blondes, au tel point que de se tirer dans les pattes pour avoir les faveurs de John. Et c'est ainsi que Vicky, à la fin du tome 2, se retrouva la jambe plâtrée. Jenny a donc enfin gagné. Murphy, le puceau butonneux, a manqué son suicide et Karine ne sait plus où donner de la tête, malgré l'aide charitable de Dan. On en est à la fois désolé pour elle et complètement plié d'un rire sardonique devant autant de vacuité intellectuelle. Surtout quand on a passé les années lycée, quoi. Bref, Hélène et les garçons, l'amour rend aveugle, mais après tout, John relèvera-t-il un jour la visière de son casque de moto? La carrière de mannequin échappera-t-elle à Vicky à cause de sa jambe cassée? Karine sera-t-elle la première à découvrir l'amour véritable grâce à Dan? Et pourquoi la tête de Jenny fait-elle des bruits de liquide quand elle la bouge? Vous le saurez en ne manquant pas l'interview des auteurs dans le supplément week-end de suite.
Mac Delaf, bonjour.
Bonjour.
Maryse Dubuc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes les auteurs d'une série qui s'appelle Les Nombrils, dont le deuxième tome s'appelle Sale temps pour les moches, sorti chez Dupuis. Si je dois définir Les Nombrils, si je devais réaliser une adaptation cinéma, je l'intitulerais Deux cruches, une martyre, trois lycéennes. Est-ce que ce serait un bon résumé?
Deux cruches, il y a une cruche qui n'est pas si cruche que ça. Quand même, il y a une des personnages qui s'appelle Vicky, qui est très, très intelligente pour trouver toujours de nouveaux moyens de mettre Karine, la grande échalote, dans l'embarras. Mm.
Puis si elle utilisait son intelligence pour autre chose que de penser à sa petite personne, peut-être que ça en ferait quelqu'un de bien, mais non, c'est malheureusement, tout est tourné vers elle.
D'accord, alors je vais prendre mon stylo et rayer ça, et je vais proposer deux dindes et une girafe zooacnéique. Le syndrome du homard, quand il monte son nombril, ça signifie quoi?
Pardon, j'ai pas compris la question.
Le syndrome du homard, quand il monte son nombril, ça signifie quoi?
Le syndrome du homard.
Il y a peut-être... Oui, c'est ça.
D'accord, question loupée. Dans ce cas-là, je passe la main à Thomas.
Alors, le vide intersidéral des gens comme Britney, la série Simple Life, ça doit être de l'or en barre.
Oui, non, c'est vrai que ça pourrait être des bonnes inspirations, mais c'est des choses que... Par exemple, on avait déjà comparé Paris Hilton à Jenny, mais en fait, c'est des références qui nous passaient quand même assez loin. Là. C'est pas, ça n'a pas été nécessairement calqué sur... Pourtant, il y a de la matière. Hein?
Non, c'est l'absence de matière, justement.
Non, c'est vrai.
Mais justement, c'est l'absence de matière qui nous donne la matière. Ça, c'est... Il y a tellement de choses à dire sur ce espèce de nombrilisme qui est un petit peu un syndrome d'une génération ou peut-être d'un âge par lequel on passe tous, où on se rend compte de notre individualité. Puis tout à coup, on a du mal à vivre avec tout ça. Donc oui, il y a vraiment de la matière là-dedans.
La méchanceté de Ginny et Vicky n'a d'égal que leur connerie. C'est ce qui sauve Karine ou la morale?
Bon, disons que Ginny et Vicky, c'est vraiment des chippies, des pestes, mais en fait, on pourrait dire que qui ont des circonstances atténuantes, finalement. C'est des garces, mais dans le cas de Vicky, on comprend que son bagage familial, elle a une grande sœur, finalement, qui est pire qu'elle. Et puis, Jenny, contexte familial qui n'est pas nécessairement facile. Donc, à quelque part, on les excuse d'être aussi méchantes et bêtes. Mais bon, Karine est presque trop gentille, presque trop naïve. C'est ce qui fait un peu mal, finalement.
Elle est tellement gentille que ça en devient un défaut. Là. Vraiment, elle est naïve et bonasse. C'est sûr que... Peut-être à la lecture des deux premiers albums, puis le troisième qui va sortir bientôt, on peut peut-être en avoir assez de voir Karine aussi bonasse, qui se laisse toujours un peu ambitionner comme ça. Mais un jour, elle aura sa vengeance. Mais peut-être que les rôles pourraient se retourner et que Karine, un jour, pourra devenir celle qui frappe sur les autres.
Et finalement, c'est ça, on s'attache beaucoup plus finalement aux deux pétasses plutôt qu'à Karine. Ah!
On va avoir les emmerdes avec le CSA ou avec ActuaBD, là?
Non, c'est salope qu'on n'a pas le droit de dire.
Ah, pardon, excuse-moi.
En fait, ce serait le croisement entre Gaston Lagaffe et les méchantes de sitcom, en fait.
Oui, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, parce que c'est vrai qu'on a un bon bagage de téléséries américaines. Et puis, le côté gag, c'est drôle parce qu'on n'est pas vrarydes lecteurs de gags. Gaston Lagaffe, par exemple, Maryse, ne connaît pas nécessairement. Moi, c'est vrai que j'ai lu quand j'étais petit, donc le côté gag vient peut-être un peu plus de moi. Mais on trouvait ça bien d'amener le côté feuilleton dans une série à gags. Donc, tu termines un album de gags avec un cliffhanger, c'est pas nécessairement très courant, mais ça nous amuse bien, malgré que ce soit un bon casse-tête à faire.
Ben, le fait que j'ai pas beaucoup de culture BD d'humour, à quelque part, ça me sert, parce qu'à chaque gag, j'essaie de redéfinir ma façon à moi d'écrire un gag. Je sais pas comment faire un gag, donc j'essaie à chaque fois, je repars de zéro. Puis après un album, même après trois maintenant, je continue à me dire, je ne sais pas faire un gag. Donc à chaque fois, c'est à réinventer. Puis Marc me sauve quand j'arrive pas avec la technique du gag. Moi, je viens plus du roman, donc j'avais écrit 6 ou 7 romans avant de passer à l'album. Donc c'est un petit peu ça aussi qui fait que j'amène une continuité narrative dans les albums. C'était pas volontaire, c'était pas un plan de carrière de dire on va faire du gag et ça va finir par se suivre avec une continuité narrative. C'est une tendance naturelle qu'on a à vouloir ajouter du contenu de cette façon-là.
Cette idée formidable du chien qui s'appelle Accessoire. Alors comment vous est venue l'idée? C'était, j'espère que c'est pas du vécu.
C'est drôle parce que la moitié des gens qui vont dire que c'est une idée formidable, puis l'autre moitié des gens qui vont dire l'idée terrible que vous avez eue. Mais c'est ça, à quelque part, ce qui est vraiment amusant avec ce gag-là, c'est que ça l'a énormément fait réagir. Bon, si on résume, c'est Jenny qui s'achète un chien parce qu'elle trouve pas de sac à main pour aller avec ses bottes. Finalement, elle attache le chien derrière la moto de John et le chien meurt par accident. Donc, c'est involontaire, c'est sa stupidité qui fait qu'il meurt. Mais il y a plein de gens que ça l'a vraiment frustré parce que, bon, c'est un pauvre petit animal qui meurt. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce gag-là est dans le tome 2. Ça provoque énormément de réactions, alors que dans le tome 1, on a Vicky qui essaie volontairement de tuer une fille parce que c'est la copine du maître nageur qui lui plaît. personne ne réagit à ça. Donc, la violence envers les animaux, même involontaire, serait plus grave que la violence volontaire envers des êtres humains. Ça révèle quand même quelque chose. Puis, de voir cette réaction-là des gens, ça nous a un peu titillé. Finalement, ce que ça nous a fait, c'est, attendez, on va en remettre une couche. Donc, on a ramené le personnage du chien en tant que fantôme pour venir souligner, la bêtise un peu de tout ça. Puis, rappeler à Jenny que, bon, les animaux, c'est pas des accessoires de mode. Donc, non, les chiens sont pas des accessoires de mode. Donc, finalement, Jenny, elle comprend tout à fait et elle s'achète un chat à la place.
Bravo. Qui achète le plus les nombrils? Votre lectorat, c'est plutôt un lectorat adulte ou un lectorat adolescent?
Je dirais que c'est peut-être un peu différent au Québec et ici. Ici, on croise un peu tout le monde, finalement. Il y a des garçons, il y a des filles, il y a des adultes. C'est assez varié, tandis qu'au Québec, c'est plutôt jeune fille.
Pour dire à quel point on n'est pas habile à cibler un public, on a créé cette série-là pour un magazine au Québec qui s'adresse aux garçons. Puis ensuite, bon, c'est ça, il semblerait que ce soit orienté plus filles, mais moi, à la base, je me suis dit, cette série-là va déplaire extrêmement aux filles parce qu'ils vont se dire que je révèle les secrets féminins. Moi, je pensais de fâcher les filles avec ça. Ce qui semble être l'inverse, finalement.
Et qu'en pense justement la génération des jeunes filles qui sont décrites dans les deux albums?
Ben, l'impression qu'on a en dédicace, c'est que souvent, les jeunes filles vont lire l'album et forcément, ça se retrouve entre les mains du père ou de la mère qui veut peut-être vérifier si c'est correct comme lecture. Mais finalement, les deux générations le lisent, puisque les jeunes disent, ils utilisent ça pour expliquer à leurs parents ce qu'ils vivent réellement dans leur adolescence. Le parent, ça fait longtemps qu'il a vécu l'adolescence, c'est 30 ans, c'est 40 ans derrière parfois. Il a un peu oublié comme ça peut être dur, comme ça peut être cruel, à quel point c'est la guerre pour la popularité, tout ça.
Et surtout à l'époque, l'argent de poche ne servait pas encore à payer les factures portables.
Oui, c'est ça. Il y avait moins de gadgets pour. C'est vrai, mais ça détermine les niveaux un petit peu comme ça. Puis c'est vraiment un monde dur. Puis on sent que le jeune, ça lui donne une capacité de communiquer avec son parent, de dire, bon, regarde, moi, j'ai de la misère à t'expliquer ce que je vis, mais lis ça, tu vas comprendre maintenant.
À 35 ans, ça sera quoi? Jenny et Vicky qui seront surendettées, obèses et divorcées, et Karine, directrice de sécurité informatique dans l'organisme de crédit qui aura ruiné ces deux ex-souffre-douleurs?
Ben, ça serait plutôt étonnant, mais on aime bien se surprendre, donc pourquoi pas? La série est ouverte, on peut. On pensait par exemple faire le tome 4, un tome qui se passerait avant le tome 1, où on verrait peut-être la rencontre entre les filles, mais finalement. Pourquoi pas un tome qui se passerait 20 ans plus tard? Tout est possible, en fait. On s'interdit rien. Puis je pense que ça fait partie du plaisir aussi de pouvoir se surprendre.
C'est vrai que ça pourrait être intéressant aussi de montrer que la vie après le lycée n'est pas la même que la vie au lycée. Donc que les rôles peuvent s'inverser et que tout à coup, ceux qui avaient la vie facile quand il y avait 14, 15 ou 17 ans n'auront peut-être pas la vie aussi facile, c'est vrai, à 35.
Marc Delaf et Maryse Dubuc, merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.
Donc, les nombrils, tome 3 s'appelle Les liens de l'amitié, sorti chez Dupuis cette semaine, Marc Delaf et Maryse Dubuc qu'on a rencontré lors du festival d'Angoulême. Et il est midi et 38 minutes, je me suis fait exploser par Régipub qui me dit t'aurais pas dû lancer l'interview là, qu'est-ce qu'on fait là, mince, la publicité.
Pub.
Bonjour, nous sommes les animateurs de la Taratatouille. Le mardi 1er avril au Bikini, venez découvrir trois super groupes.
Un concert où nous allons interviewer les musiciens de Ush Medoma qui font du punk rock baroque et viennent de Tchéquie.
Et puis Stanley Kubi du noise rock mélodrôle de Paris.
Puis Rectus qui font du rock expé de Perpignan.
Venez assister à cet événement exceptionnel aux effets hallucinatoires. D'un coup de carotte magique, tu seras à la fois dans le poste de radio sans bouger du bikini.
C'est à 20h pétante et c'est 6 euros.
À entendre sur Radio Éphémère en direct sur 89.1.
Les guerres. Viens ou je tue le lapin.
Viens ou j'en p*** le chien. Waouh.
Éphémère. Oui, Duce, tu avais un truc à dire? Bon, Donc j'explique quand même à Nathan que en fait il y a le on air et le off air. Donc voilà, donc le off air, t'as bien compris, c'est ce qui ne se dit pas, hein, c'est off. Voilà. Donc on n'avait rien à dire, sinon que Pete aurait quand même pu mieux trouver pour le nom. Voilà. Non? Oh, tu t'en fous complètement.
Grosso modo, ouais.
Bon, allez, ok, on continue dans les sorties. Ou... Non, c'est l'autre lecteur, je me suis trompé. Voilà. En direct intégral, qu'est-ce que vous voulez?
Vas-y.
Tu es sur Global Frequency du sport.
Au cœur de la nuit.
Warren Ellis au scénario. Attention, il y a du monde. Simon Bisley, Chris Puss, Carl Story, Lee Bergemot, Tom Cooker, Jason Perron, Jen Ha. C'est uniquement pour le second tome donc de Global Frequency qui vient de sortir. Il s'appelle Radio Détonation. C'est dans la collection Wildstorm chez Panini Comics. Tu peux les piquer, il est de l'autre côté, les bouquins. Oh. On va dire que vous connaissez ce quelqu'un. Enfin, vous pensez connaître. Il ou elle est plutôt talentueux, dynamique et se trimballe toujours avec ce drôle de téléphone portable un petit peu gros. En fait, cette personne fait partie des 1000 de Global Frequency. Une agence secrète de sauvetage, un réseau créé et géré par des téléphones satellites, un club fermé de sauveteurs internationaux, tous extrêmement compétents, chacun dans leur domaine. Et quand ils reçoivent un coup de fil de cette mystérieuse Aleph en leur disant « Tu es sur Global Frequency », ils plaquent tout. Parce que le destin de l'humanité est entre leurs mains. Miranda Zero est l'éminence grise de cette organisation, celle qui est à la base de tout, recrutant, négociant, menaçant. Son carnet d'adresses est longue comme la liste des secrets enterrés après la guerre froide. Des plus grands savants, jusqu'aux plus espions les plus aguerris, des anciens soldats hyper entraînés, jusqu'aux personnes les plus influentes des communautés citoyennes. Qui sait de quel péril sauve-t-elle le monde? Un virus oublié? Des illuminés de n'importe quelle doctrine ou un phénomène naturel exceptionnel? Il faut arriver, réfléchir, comprendre et agir au plus vite. Quand ce téléphone sonne, il vaut mieux déjà commencer à courir en décrochant. Alors tenez-vous prêt, vous êtes sur Global Frequency. Les meilleurs spécialistes sont là pour vous épauler. Warren Glock Ellis, je dis Glock parce qu'en général, niveau politique et niveau scène sanguinolente, il est pas... Enfin quoi, ça renvoie du bois. Je pense évidemment à Metropolitan, le ministère de l'espace ou Desolation Jones... Raconte ici une histoire bourrée d'adrénaline, rythmée par un chrono sous en fait pour ce mission impossible de l'ère internet. Chacun des chapitres est indépendant et est dessiné par un auteur différent, démultipliant à chaque fois les agents intervenants. Le casting sans cesse changeant et la cadence effrénée sont là pour mettre le lecteur sous pression. Warren Ellis au scénario, Simon Bisley, Chris Poon, Spoos, Carl Story, Lee Bermejo, Tom Cooker, Jasper Ron, Jen Ha... Tout ça, c'est dans le deuxième tome de Global Frequency qui s'appelle Radio Détonation, dans la collection Windstorm chez Panini Comics. Mais revenons à la réalité, s'il vous plaît. En 2005, fut tourné un pilote de série télévisée adaptant le comics, que ceux qui l'ont vu ont jugé d'excellente qualité. Mais Warner Bros., qui l'a commandé, ne le diffuse pas. Ouais, non, ça n'est pas suffisamment populaire auprès de la jeune... de la femme au foyer, auprès de l'ado qui vit dans le Middle West. Pff, si on passe nos chaînes de télé, on va pas avoir une audience bien, quoi. Ce pilote se retrouve, après cette réunion, comme par hasard, sur les canaux de distribution illégaux d'Internet, en peer-to-peer. Où elle génère un buzz littéralement énorme. Le réalisateur de ce pilote, John Rogers, qui a notamment réalisé la série de dessins animés Jackie Chan ou encore fait un film qui s'appelle The Core, qui n'est pas franchement génial, mais bon. John Rogers, dégoûté par la position de la Major, ne sait pas s'il doit condamner l'initiative ou au contraire l'encourager malgré son inégalité. Le plus étonnant dans cette histoire, c'est la totale incompréhension du phénomène par Warner Bros. Jugeant que le pilote de série télé a été trop piraté pour être diffusé à la télévision, ils ont tout simplement enterré les bandes. C'est-à-dire ils ont dit, bah non, du coup, ça a été trop piraté, on va même pas diffuser le pilote. Privé à jamais d'une quelconque diffusion, même sur une chaîne du câble ou en DVD, ou alors, en total, illégalité. Bref, on atteint exactement l'absurde où d'immenses sociétés de production cinéma et musicale combattent les nouveaux moyens de diffusion, comme la radio, qui dans les années 30 jusque dans les années 70 n'avait pas le droit de diffuser de disques, ou le magnétoscope. Je pense notamment au fameux procès le procès Betamax entre la Paramount et Sony au début des années 80. Et maintenant, ben, il y a Internet. On risque de disparaître dans un marché en pleine mutation qui permet enfin aux indépendants d'accéder à des moyens de diffusion modiques sans se faire racketter par les majors et les distributeurs. Ils ont loupé Global Frequency, et ben, ça sent le sapin pour eux, quand même, entre nous. Alors, si vous voulez vous donner une idée, ben, lisez la BD qui est absolument géniale, Global Frequency. Ça vient de sortir dans la collection Mindstorm chez Panini Comics, donc il y a deux tomes. Le deuxième s'appelle Radio Détonation. C'est Warren Ellis qui est au scénario avec un panel de dessinateurs absolument immense. C'est une série qu'il a fait en 2001-2002. Et là, il vient de se relancer. Justement, à cause du succès sur le net, il a dit, bah, moi, je m'en fous. Je continue parce que c'est mon œuvre. Et la série télé ne m'appartient peut-être pas, mais le comics, je le fais avec les copains et ça nous rapporte du pognon. Et voilà. Global Frequency, donc dispo en France. Petite coupure musicale avant de passer à Adus, hein, je pense. Mini Pop, La Caillou. Eux, ils ont diffusé gratuitement leur musique sur le net parce que tout simplement, ils ont fait partie du festival South by Southwest qui a lieu tous les ans au Texas. Ça te va comme ça, Adus ?
Ouais, c'est pas mal.
La télévision vous est présentée par Dusbo.
Ouais, d'abord, excusez-moi. D'abord, un petit peu d'histoire, si tu permets. avec les Tudors. C'est l'événement de la rentrée, c'est l'événement de cette semaine en ce qui concerne la télé quand même. Mais tout d'abord, on va revenir un petit peu à l'histoire d'Angleterre. En 1483, Richard de Gloucester, de Gloucester pour ceux qui habitent dans le Midi, quoi, par exemple, qui est régent en fait à la mort de son frère Édouard IV, séquestre ses neveux, Édouard V et son frère, puis devenu roi sous le nom de Richard III, ah, ça commence à vous dire quelque chose, fait assassiner les héritiers légitimes. 1485, le dernier représentant de la maison de Lancaster, Henri Tudor, fils de Margaret de Beaufort, prend la tête de la révolte contre Richard III. Celui-ci est tué à Bosworth. Et donc, Henri Tudor devient Henri VII, roi d'Angleterre, et épouse Elisabeth d'York, qui est la fille d'Édouard IV. Qui c'est qui a suivi Édouard IV?
Isabelle Ier?
Non, Édouard IV, qui est mort et qui donc a laissé les pouvoirs à Richard de Gloucester, qui a commencé à foutre le bordel. Ok, il épouse donc Elisabeth d'York, il est déjà paumé à ce moment-là, ça, alors là ça va être très grave, fille d'Édouard IV, unissant donc les deux lignées royales qui sont rivales. En 1492, le traité d'Étaples, un traité entre le roi d'Angleterre et le roi de France, Charles VIII, pour que le roi d'Angleterre n'intervienne pas, parce que Charles VIII il a envie d'envahir l'Italie. Et il a pas envie que les autres lui tombent sur le rable, donc c'est pour ça. L'autre lui dit bon, si tu payes, y a pas de problème.
On sort d'une petite guerre de 100 ans là.
Ouais, ouais, non, mais ils arrêtaient pas de se taper dessus. Et puis bon, là, ok, mais l'autre, Charles VIII est obligé de payer pas mal de fric, hein, quand même, pour que l'autre il reste tranquille. Traité d'Étaples. En 1495, très important, le Pony Inn Act, qui réserve au Conseil royal l'initiative et l'approbation définitive de toutes les lois régissant l'Irlande. Yeah! En 1509, avènement de Henri VIII. En 1513, alors lui, bon, bah, on a vu de toutes les couleurs des films, il y a eu plein de versions, le nombre de femmes qu'il a eues et tout, surtout. Mais c'est quand même un roi qui a beaucoup fait pour l'histoire future de l'Angleterre. Henri VIII, donc, son avènement, c'est en 1509. En 1513, victoire d'Henri VIII avec Maximilien d'Autriche sur les Français à Calais. Ouais, il continue, bien sûr, à se bastonner allègrement avec les Français. En 1520, l'entrevue du drap d'or avec François Ier, histoire de dire, ouais, putain, faut qu'on arrête de se taper sur la gueule et tout. On peut y gagner, à être en paix, on développera le commerce et tout, on gagnera plus de pognon comme ça. En 1521, Henri VIII réfute la doctrine luthérienne. En 1534, Henri VIII, furieux contre le pape Clément VII, qui refuse d'annuler son mariage avec Catherine d'Aragon, parce que lui, il voulait se faire Anne Boleyn, qui à l'époque lui disait, ok, d'accord, mais faut divorcer, faut m'épouser, quoi, sinon, pas crac crac, négatif. Donc lui, il avait les boules et tout, puis bon, il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait.
Il a dit, je monte ma religion, ouais.
Et donc, il fait abroger par le Parlement tous les pouvoirs du pape et contraint l'Église d'Angleterre à le reconnaître pour chef par l'acte de suprématie. Haha, la fameuse scission, justement. Ouais, du fait, en 1534, de 1534 à 1536, ça a été un petit peu la razzia, la dissolution de tous les ordres religieux et la confiscation de leurs biens au profit de la couronne par un certain Thomas Cromwell. Yeah! Et en 1539, la promulgation du Bill des six articles qui maintient la hiérarchie et le dogme catholique tout en refusant la primauté papale. En 1547, il décède et c'est donc Édouard VI, fils de Henri VIII et de Jane Seymour, qui prend donc la royauté d'Angleterre. Les Tudors, c'est une excellente mini-série qui a cartonné outre-Atlantique, qui a été diffusée par Showtime, 10 épisodes de ces formats auquel on est habitué, c'est-à-dire les 50-55 minutes, mais là, casting, budget en béton, plus de 30 millions de dollars, reconstitution historique, décor grandiloquent, et le casting qui va avec dans le rôle titre Henri VIII, Jonathan Rhys-Meyers, qu'on avait déjà vu dans le double téléfilm, enfin la version longue téléfilm de La vie de Elvis,
pas top quoi, mais enfin bon, ok, ils préfèrent passer celui-là que l'autre avec Kurt Russell, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça quoi. Outre Jonathan Rhys-Meyer, on a également Sam Neill dans le rôle de Thomas Wessler. Il y a beaucoup de Thomas dans cette histoire à ce moment. Il y a Thomas More, est joué par Jeremy Northam. Quant à Anne Boleyn, c'est Nathalie Dormer. Il y a Catherine d'Aragon interprétée par Maria Doyle Kennedy. Et le scénario, enfin bon, si on peut parler de scénario parce que c'est l'histoire, hein, mais il a fallu un petit peu enjoliver. Et il a fallu
romancer, mettre des scènes d'action.
Des scènes d'alcôve, en restant poli, on peut dire ça comme ça aussi.
Moi, je préfère les scènes d'action, Richard Croix. Scénario... Le royaume pour un cheval.
Non, c'est scénarisé par Michael Hurst, qui avait déjà fait le scénario de Elizabeth, donc ok.
Spécialiste de l'époque.
Ça booste quand même un petit peu. La saison 1 fait 10 épisodes et la saison 2 est en cours de tournage parce que ça a vachement beauté et qu'il y avait du monde derrière son poste du côté de chez Showtime, c'est-à-dire du côté des Ricains. Et la diffusion commence en France lundi sur Canal+, à partir de 20h50, les deux premiers épisodes de cette série qui s'appelle Les Tudors. Vas-y, envoie la musique. Seagal.
Ah merde, je le savais.
Ouais. Donc je rappelle, hein, les Tudors, c'est à partir de lundi soir sur Canal+, 20h50. Sinon, une petite friandise qui a l'air assez sympathique, mais l'horaire de diffusion m'a l'air très tardif. À 0h45 sur Paris Première, c'est un petit peu les bollocks, quoi, tu vois. Franchement, c'est même franchement les bollocks, on va le dire, hein, carrément. C'est mercredi prochain et c'est adapté d'un best-seller. Hein, j'étais curieux hein, de découvrir que c'est assez récent hein, quand même. Ça fait hein, 2 ans, on va dire, hein, qu'il est vachement connu. Henning Mankell, hein, cet écrivain suédois hein, qui nous a popularisé un petit genre, le polar suédois, avec comme héros principal Wallander. Wallander qui bien également sa déclinaison télévisuelle s'est filmé par la télé suédoise bien sûr, et les épisodes arrivent de par chez nous, diffusés sur Paris Première avec Christer Henriksson dans le rôle titre de Wallander. Il y a quand même 8 romans hein, qu'il a écrit hein, de 91 à 98 avec comme héros donc Wallander, héros de principal de ces polars. Il y a également Johanna Sahlström qui joue le rôle de sa fille et dans les polars et dans la série hein, qui elle travaille dans la police, lui c'est un ex-policier, et puis bon il va résoudre des enquêtes, des histoires d'homicides un petit peu craspec et d'autres petites contrariétés de la vie quotidienne de tous les jours, que ce soit ici en Suède, enfin pour eux c'est plutôt en Suède, et la réalité un petit peu rejoint la fiction on va dire hein, parce qu'il y a un fait divers tragique qui s'est passé là-bas l'année dernière en février 2007 hein, c'est le suicide de l'actrice qui interprétait le rôle de la fille de Wallander dans la série, Johanna Sahlström, qui s'est suicidée l'an dernier, donc, et ça a fait pas mal de bruit là-bas, parce que bon, bah, c'était quand même une série qui était vachement populaire, regardée par pas mal de monde sur la télé suédoise, et donc, ça a eu pas mal de retentissement à ne pas louper quand même, parce que ça va être très intéressant, et ça va sortir un petit peu, ça va nous changer des archétypes qu'on connaît bien, hein, les ricains, les anglais, les français, les européens classiques. À dire là, eh bien, ça décale un petit peu quand même. C'est sur Paris Première à partir de mercredi prochain. Mais donc à un horaire hyper tardif, 0h45, Wallander. Sinon, là, il y a un monument de pure déconne. Et là, tout le monde l'annonce, tout le monde le dit. C'est Flight of the Conchords. Un truc complètement jobard. Une espèce de déconne ovni venu d'ailleurs, de Nouvelle-Zélande en particulier. Ça raconte l'histoire plus ou moins vraie, traficotée, de Jermaine Clement et de Brett McKenzie, deux Néo-Zélandais qui partent à la conquête de New York en fait, pour chercher le succès, la gloire, les filles, la coke, tout, ouais. Avec leur groupe qui s'appelle Flight of the Conchords. Alors c'est 12 épisodes, ça a été diffusé par HBO, hein, ça a un succès absolument fou. Format vachement court, 25 minutes, et c'est diffusé ce soir sur TPS Star à partir de 22h55. À suivre surtout parce qu'ils ont une partition musicale et leur manière de réinterpréter, on va dire, certaines chansons ou certains thèmes musicaux très connus et à se les réapproprier et tout à fait jubilatoire. Donc à ne pas louper, Flight of the Conchords ce soir sur TPS Star à partir de 22h55. Sinon, ce soir, dans New York, section criminelle, le dernier de la saison 6, hein, le numéro 22, eh bien...
Ça veut dire cliffhanger, ça.
Ouais, pas forcément, hein, parce que bon, bah, ok, on sait qu'ils vont revenir à la saison prochaine, donc il n'y a pas besoin de cliffhanger, on s'en tape, quoi.
La tu police vois, la est toujours là, elle veille.
Là, celui-là, il avait Chris Nott et Julianne Nicholson, voilà, pour une fin de saison, et comme guest star, s'ils ne sont pas plantés, c'est Kelly Williams, Ouais, tu sais qui est Kelly Williams quand même. C'est ma Destiny's Child préférée. Tout le monde préfère Beyoncé, mais non, mais Kelly Williams, elle est tellement meilleure. T'es pas d'accord avec moi?
Oui, tout hein à fait, oui.
L'autre, là, il y a Beyoncé et il y a Kelly Williams. C'est les deux originelles, les deux seules qui restent depuis le début de Destiny's Child. La troisième, elle fait de la figuration, hein, puisqu'elle a changé au moins 3 fois. Et là, Kelly Williams, c'est l'autre, hein, celle qui est derrière, mais qui a tout le temps été avec et tout.
Alors, putain, du sport à ses hormones, hein.
Ah, ouais. Voilà.
Coucou, Spagnier!
Voilà. Voilà, donc, Kelly Williams, c'est ce soir dans New York, section criminelle sur TF1 à partir de 23h15. Sinon, James Cook, tout savoir sur James Cook, c'est ce que vous propose Arte dans un programme relativement complet, assez long et qui va se passer sur 3 soirées, à savoir ce soir, demain soir et lundi soir.
Une partie tout d'abord qui est scénarisée, Les Aventures de James Cook, une coproduction australienne et allemande qui date de 87. Bah alors du long, hein, 4 téléfilms en fait, hein, d'une heure 40, quoi, ça fait quand même assez long, pour raconter la vie de James Cook, hein, l'explorateur anglais, l'un des plus connus dans le monde. Là c'est interprété par Keith Mitchell qui joue le rôle le titre de Cook. Il y a également Joseph Banks, Jacques Penneau, Barry Keane, et c'est tourné par Lawrence Gordon Clark. Alors la première partie 1h40 c'est ce soir à partir de 21h sur Arte. Demain soir deuxième partie à 1h45 à 20h40, et lundi les deux dernières parties de 21h jusqu'à 0h20, donc de ce téléfilm hyper long, Les Aventures de James Cook. Il y a également une autre partie qui est une partie documentaire qui s'appelle James Cook, explorateur du Pacifique. Également un gros documentaire diffusé en 4 parties, mais alors là ils en ont fait 2 grosses parties qui seront diffusées ce soir à 22h40 toujours sur Arte, les 2 premières parties, et demain soir à 22h20 les 2 autres parties, après téléfilms australo-allemands Des Aventures de James Cook, tout ça sur Arte demain, donc demain, dimanche et lundi. On va plier tout ça avec la semaine sur RTL9, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, ça faisait facilement plus d'un an, hein, presque 2, hein, puisque bon, j'avais quand même trouvé d'autres angles, d'autres angles, comme ils disent, tu sais, dans les agences de pub. Donc la semaine sur RTL9, ça c'est un grand classique, avec ce soir à 20h45 de L'Or pour les Braves. Ouais, si rappelle-toi le film de Brian Hutton en 70 avec Clint Eastwood, Telly Savalas et Donna Sutherland, qui joue le rôle de c'est des soldats américains qui sont en Europe, et puis bon, ils vont se détourner de leur mission qui est de sauver l'Europe du joug nazi, parce qu'ils sont à la recherche, ils sont à la recherche d'une caisse remplie d'or et tout, enfin bon, c'est un petit peu western, mais bon, dans la Seconde Guerre mondiale et tout, quoi. Mais bon, avec Clint, il y a pas de problème, ça marche. Telly Savalas, eh ouais, avant Kojak, mais il était déjà chauve. Et Donald Sutherland, le papa de Kiefer. À 23h10, ou encore un gros classique, Evil Dead 3. Yeah. Ouais, celui-là, c'est le plus fondant. C'est vraiment,
c'est celui vraiment le plus dingue.
Qui est cartoonesque, BDS,
on va dire. Parler de fantasy, je sais pas, tu connais la série des Evil Dead. Bon, là, bah, c'est un... Comment dire, c'est un vendeur en bricolage qui se retrouve face à une situation abracadabrantesque suite à la découverte des pages du Necronomicon, le fameux livre maudit relié cuir d'humain et écrit sur la peau d'humain. Et donc il se retrouve face aux horreurs de l'enfer d'une manière impossible. Et au bout d'un moment, dans le 2, donc on l'avait laissé dans le 2, il s'était tranché la main, il s'était greffé dessus une tronçonneuse, et dans le 3, il se retrouve en plein dans un univers médiéval avec sa tronçonneuse.
Là, c'est jubilatoire.
Ça peut.
Alors autant le premier, tu vois, le premier c'est le choc, le trip gore et tout, bien quoi, c'est le monument de toute façon. Le 2, bon ben c'est allez, on va un petit peu accélérer le mouvement, on va à fond les manettes,
hein. Ça commence à aller dans le grotesque à fond.
Ouais, mais bon, on assume à fond les manettes. Et le 3, c'est carrément bon, ok, là on assume à fond le côté geek, on déconne, c'est de la déconne à fond les manettes. C'est bon, on peut pas dire que c'est le meilleur, parce que bon, ils sont tous les 3 bons, mais celui-là il est particulièrement savoureux. C'est celui qu'on peut le mieux regarder si on a peur un petit peu des effets un peu craspec et tout qu'on a dans les 2 premiers, qui sont bon, ok, c'est vrai, ça dépote. Bon, on a déjà fait mieux depuis, hein, mais bon, ça vaut quand même le coup. C'est le Sam Raimi de 93, donc le 3, avec Bridget Fonda, ouais, Bridget Fonda et Bette Davis également. Enfin bon, que dire de plus. Tout ça, c'est RTL9, demain soir à 20h45, la Maison Russie de Fred Chapizzi, ouais, avec Sean Connery, ouais, Michel Pfeiffer.
Excellent film d'espionnage.
Ouais,
excellent.
Ou que tu as l'impression de comprendre, mais tu comprends pas tout. Alors là, c'est putain, tu dis, ah merde, j'ai loupé un truc et tout.
Ouais, il faudrait que je revoie.
Et tout, ouais, mais bon, ok, il y a Klaus Maria Brandauer aussi, ouais, Roy Scheider, le regretté, et James Fox, suivi
À 22h25 de l'arme secrète, ouais, de Aaron, le fils de Chuck Norris, de 91, avec également Michael Parks. C'est celui-là, il dépote pas mal. Faut dire ce qu'il est, hein, pour ceux qui aiment bien le cinéma d'action et tout, bon, tu gamberges pas 10 minutes, c'est clair, mais par contre, ça dépote pas mal, et Chuck Norris, bon, il s'est quand même levé la jambe, hein, il faut dire ce qu'il est. Et lui, il le fait en jean. Alors, t'as déjà essayé en jean? Parce qu'ils sont marrants, les Asiatiques et tout, avec leur lycra, le truc qui sont bouffants, qui volent et tout, c'est facile. Mais essaye de faire ça en jean, moule burn et tout, quoi. Tu vas
sais
voir.
Pourquoi la série...
C'est pas la même chose.
Tu sais pourquoi la série anglaise Avengers en France, on l'appelle chapeau melon et bottes de cuir?
Non.
Parce qu'au départ, la série de Quick de... Mince, j'ai de Patrick McNee, donc celle qui a joué dans les trois premières saisons, elle était en jean. Et une fois, elle a fait un high quick et le jean s'est déchiré. Mais à l'époque, les séries télé étaient faites en direct.
Ah, d'accord.
Donc il y a eu un léger malaise. Donc on a dit, bon bah voilà, bottes de cuir, ce sera un petit peu plus pratique et combinaison moulante plutôt que des jeans.
Voilà, donc pour en revenir à l'arme secrète, donc c'est demain soir à 22h25. Et lundi, ouais, cerise sur le gâteau, 20h45, Nico d'Andrew Davis. Allez, avec Steven Seagal. Et là, il y a encore celui avec Sharon Stone et Pam Grier en même temps.
Pardon.
Ouais. Henry Silva, enfin bon, je passe. Celui-là, il est bien, hein, il est de 88 et tout, c'est un bon Steven, quoi. Et celui à 22h35.
Il y en a eu un!
Non, il y en a eu plusieurs, quand même. À 22h35, Les ailes de la nuit de Marc Pavia. Tiré d'une nouvelle de Stephen King avec Miguel Ferrer, ouais, le patron de la morgue dans Crossing Jordan, preuve à l'appui. Et Julie Entwistle, mardi, toujours sur RTL9 à 20h45. Alors là, du lourd. Alors là, tu en veux du fantasy,
ouais.
Conan le barbare de John Milius, un monument.
Grunt.
Avec Max von Sydow et la nana qui s'appelle, c'est con parce que Thomas aurait été là et tout. Non mais le nom, il est remarquable, Sandal Bergman, bien sûr, dans Conan le Barbare, suivi d'un autre film d'une nouvelle de Stephen King, et réalisé par Stephen King. Alors là, ça fait oula les mecs et tout, Maximum Overdrive, le film de Stephen King de 86 avec Emilio Estevez. Tu sais, l'histoire des machines qui commencent à faire tout et n'importe quoi.
Ouais,
et tout,
légèrement pompé de à truck.
Voilà, mais bon, ça fait rien, c'est Stephen King, quoi, tu vois, quoi.
Ouf.
Donc c'est marrant.
Bah,
c'est
surtout
prochain.
La musique derrière, c'est AC/DC.
Ouais, entre autres.
La pub, c'est uniquement avec la musique d'AC/DC.
Avec, c'est donc à 23h15, mardi prochain, sur RTL9. Mercredi prochain, toujours sur RTL9, à 20h45. Amour et mensonge de Lasse Hallström avec Julia Roberts, Robert Duvall, Dennis Quaid, Gina Rowlands et Kyra Sedgwick. Et à 22h45, celui-là, il est pas mal du tout. Et il y en a pas beaucoup qui l'ont vu parce que c'est un film qui a subi un peu le même sort que ce pilote dont tu parlais un petit peu avant. Et je crois que c'est par la même chaîne, la Warner à l'époque. Au début 80-82, Dressé pour tuer, le film de Samuel Fuller avec Christy McNichol et James Wong Parkin. Un film sur le racisme, mais de façon un petit peu, on va dire, métaphorique, où une nana, elle achète un chien, elle découvre que ce chien est dressé pour attaquer les blacks, tu vois, quoi, genre...
Donc
le malaise et tout, enfin bon, et donc le film à l'époque, il a été tourné, produit et tout, mais la Warner a refusé de le sortir dans les salles parce que c'était vraiment un sujet trop controversé à l'époque et que bon, il valait mieux pas trop et tout, donc le film a dormi dans les tiroirs et a pu ressortir comme ça en catimini dans les salles
faut dire que c'était la fin de la décennie 70 qui était très très riche dans les films engagés, pas uniquement science-fiction avec Sliver et tout ça. Il y a eu aussi In the Heat of the City qui avait moyennement marché. Ils se sont dit non, ça fait trop Bloxploitation, et puis c'était chaud, hein, quand même. C'est vrai que c'est un film qui est assez lourd.
Donc Dressé pour tuer, c'est mercredi prochain à 22h45.
C'est l'anti-Beethoven, hein.
À 22h45, le film de Samuel Fuller de 82. Jeudi, il y a du Steven Seagal cette semaine, il y a également du JCVD avec l'un des meilleurs kickboxers, ouais, le gros classique, ouais. Suivi à 22h35 de Puissance Catch sur RTL9. Et vendredi,
c'est truqué.
Vendredi, c'est relaxation, déconne à 20h45 avec le film Coneheads de Steve Aron de 93, les Coneheads avec Dan Aykroyd, avec Jane Curtin, David Spade. Jane Curtin, qu'on voit après dans Troisième Planète après le Soleil.
Oui, ça tu vois, Jane Curtin.
C'est tiré. C'est de Coneheads, en fait, au départ, c'est tiré d'un gag qui était devenu récurrent dans le Saturday Night Show avec Dan Aykroyd, toute la bande de l'époque, hein, donc. Ça a donné ce film une petite décennie plus tard, réalisé par Steve Barron, avec toujours Dan Aykroyd, donc, et Jane Curtin, ainsi que David Spade. David Spade, il jouait dans une autre série dont je me souviens pas, avec Laura San Giacomo, voilà, je crois que ça s'appelait, dans le monde de la mode, une série américaine. Coneheads, donc, c'est de vendredi prochain, 20h45, sur RTL9, et c'est suivi à 22h30 par Magic Emmanuel, de Francis Leroy, en 93. Et là, Emmanuel, c'est il y en a deux, il y a la jeune, c'est-à-dire celle qui projette pour être Emmanuel, Marcella Wallenstein. Il y a également Sylvia Christel, hein, comme d'habitude, mais juste là pour regarder tout puis faire des commentaires et tout. Et
il
y a également Mélanie Moore, ouais, pas mal. Et Georges Lazenby qui vient faire le vieux cochon, sacré Georges.
D'ailleurs, George honnêtement,
Lazenby, qui a quand même tenu le rôle de James Bond. Attends.
Oui, mais il a fait qu'une fois.
Ah oui, mais
service secret de Sa Majesté.
Ça suffit, mon gars.
Nathan Ikabangaroma, merci d'être passé.
Mais merci à vous.
D'avoir fait ta promo. J'espère qu'on ne t'a pas trop inquiété, là. Hein. Donc, cette conférence avec Sébastien Langevin et Julien aura lieu donc vendredi prochain à 18h.
À 18h, le vendredi 28 mars à 18h à l'école de commerce de Toulouse.
D'accord. Donc, à côté de Compense Caffarelli.
Oui.
Venez nombreux, l'entrée est gratuite. Voilà. Merci. Et après, il y aura une conférence dans la foulée, la semaine suivante,
voilà,
je crois, sur la fantasy.
La fantasy, tout à fait.
D'un autre côté, qu'est-ce qu'il y a à signaler, Morgan et Marf, qui sont en dédicace tout à l'heure à la librairie Album pour l'Ivresse des fantômes, dont le tome 2 s'appelle Éminent Professeur Pélias. Ce même vendredi de la semaine prochaine, Paul Coe et Guillaume Caveri seront là pour la série Aster chez Delcourt. Et samedi prochain, Jean-Marc L'Officier, Randy L'Officier, Guillaume Lebeau et Philippe Ward pour donc le club Van Helsing, mais aussi l'éditeur de science-fiction Rivière Blanche. Zou. Voilà, change de fond sonore un peu pour une fois pour se quitter. C'était le supplément week-end numéro 1, 2, 3, 4, 5, enfin 150, voilà. Ça fait bizarre, hein. Ça fait que la quatrième année pour le supplément week-end. Je crois que mon record personnel pour une émission, c'était 178 en hebdomadaire. Et quelque chose comme 400 pour une quotidienne, donc on est encore loin du AI. Thomas n'est pas là pour faire le résumé, mais si vous avez pris l'émission en cours de route, et ben sachez qu'on a eu donc Nathan Ikabanga, Romain en invité. On a eu en interview Marc Delaf et Maryse Dubuc pour Deux Cruches et Une Girafe. Les Nombris, le troisième tome, donc, est sorti chez Dupuis. Et ensuite, on a parlé de Global Frequency, une série télé avortée par pure bêtise et obscurantisme. Et d'un autre côté, notre cher bien-aimé du sport n'a pas pu s'empêcher de placer le grand Steve. Et c'est pas Steve McQueen. Mais si vous avez manqué tout ça, heureusement, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission. Pour cela, c'est très simple. Vous allez sur suppléments-weekend.tk, suppléments-weekend, hein, tout en minuscules, sans tirer ni rien. Ou sinon, vous cherchez tout simplement suppléments-weekend. MP3 ou supplément week-end FMR sur Google et vous tombez direct sur l'émission, vous retrouvez mes chroniques écrites, vous pouvez fouiller dans nos archives, écouter l'intégralité de toutes nos émissions, laisser vos commentaires, poser des questions et même gagner des BD. Mais pas possible, mais si c'est possible. Et qu'est-ce qu'il y a de suite? Eh ben après du sport, il y a 15h de Zarma Farah et le grand parrain du reggae en France. À 17h, ça c'est de la bonne vision, de la bonne découverte musicale. À 18h, Big Bang, du rock, du pur, du... À 19h, Happy Roar, allez-y, les cahuètes sont gratuites. À 20h, il déteste quand je l'appelle Didi Jésus, mais il est de retour d'outre-tombe avec la Stéréo Expérience, l'émission d'électro la plus arbi qui soit, suivi à 21h30 de 9 Love, c'est du Two Step. Et à 23h, et ben vous aurez du rock, du live avec le potager, l'actu et des captures de concerts. Voilà, nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne, même fréquence, même global frequency, avec cette fois-ci Thomas. Ciao, bye.